Barack Obama a validé cette loi parce que c'est quand même le genre de loi qui fait l'objet d'un consensus assez important aux États-Unis, hein, étant donné les valeurs qui sont inscrites dans la Constitution. Et la nécessité vraiment de la mettre à jour, de la remettre à jour, de la modifier, parce qu'on se rend compte qu'elle n'était pas forcément extrêmement efficace dans la forme qui était la sienne, telle qu'elle avait été votée en 1998.
Parce qu'il y a aujourd'hui une urgence qui fait qu'il faut réécrire ce que c'est que protéger la liberté religieuse.
Il y a une urgence. On voit que les persécutions religieuses dans le monde augmentent. Il y a 3/4 des habitants de la planète qui habitent dans des pays où la liberté religieuse est menacée plus ou moins gravement. Il y a des nouvelles formes aussi de menaces, pas que sur la liberté religieuse, d'ailleurs sur la liberté de ne pas être religieux. D'ailleurs, hein, les personnes qui revendiquent leur athéisme, je pense par exemple aux blogueurs du Bangladesh qui ont été massacrés pour avoir mis des propos favorables à l'athéisme sur Internet. Il y a bien évidemment les violences perpétrées par l'organisation État islamique. Donc cette loi reflète ces évolutions.
Donc faire une place aux non-croyants, aux athées dans un texte de loi, ça c'est historique.
Voilà. Ça, c'est absolument historique et ça clôt de manière assez symbolique l'administration Obama, c'est vrai, parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même un président qui a eu à cœur d'accorder aux non-croyants leur place au sein de la société américaine de manière officielle, en reconnaissant leur existence, si vous voulez, dès son discours d'investiture en 2009.
Alors, il y a donc des nouveaux outils qui sont donnés à travers cette loi pour protéger la liberté religieuse. Comment est-ce qu'ils vont être utilisés, mis en place, appliqués ?
C'est toujours le problème par rapport à cette loi. Il y a toute une batterie d'outils. Vont-ils être vraiment appliqués ? Je rappelle que dans la mouture de 1998, il y avait la possibilité faite d'employer des sanctions contre les États qui se rendaient coupables de violations de la liberté religieuse. C'est un outil qui a été très peu utilisé. Un des outils intéressants, c'est déjà la mise en place de formations pour les diplomates américains à l'importance de la liberté religieuse. Donc, pour que sur le terrain, ils soient sensibles et particulièrement vigilants sur ces questions. Donc, ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Pour ce qui est des outils, en particulier, il y a eu notamment la création d'une nouvelle catégorie, à savoir les entités particulièrement préoccupantes, justement, des organisations type État islamique ou Boko Haram, donc pas des organisations étatiques. Après, de là à appliquer des sanctions contre ce genre d'organisation, je ne vois pas très bien qu'on peut en faire concrètement. Hein, donc, ça reste à voir. Il y a quand même quelques améliorations, me semble-t-il, du fait que le poste d'ambassadeur à la liberté religieuse internationale ait été relié directement au secrétaire d'État, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, ce qui semble quand même placer la préoccupation pour la liberté religieuse peut-être plus au centre, ou en tout cas moins à la marge de la politique étrangère américaine. Et autre chose également, me semble-t-il, d'important, c'est que le nombre de personnels affectés au Bureau de la liberté religieuse internationale au département d'État est fixé par cette loi. Avant, ça dépendait un peu du bon vouloir de chaque secrétaire d'État, de chaque président. Donc, ça reflétait son plus ou moins grand intérêt pour ces questions. Que ce soit maintenant normé par la loi, ça garantit peut-être une plus grande régularité dans l'application des politiques visant à protéger la liberté religieuse dans le monde.
Est-ce que ces modifications, ça révèle de nouvelles inquiétudes de la part des États-Unis ?
Oui, je crois que très clairement, l'inquiétude par rapport aux persécutions dont sont victimes les chrétiens au Moyen-Orient ont vraiment attisé ces inquiétudes. Et le fait aussi, je vous dis, que la loi, dans sa version originale, n'a vraiment pas tenu ses promesses. Donc, il y a clairement une montée de l'inquiétude aux États-Unis sur cet aspect, absolument.
Mais comment est-ce que des exactions à l'autre bout du globe, entre guillemets, au Moyen-Orient par exemple, peuvent avoir des conséquences sur la société américaine?
Alors, il y a là une chose qui est très importante dans tout ce qui concerne cette politique de défense de la liberté religieuse internationale, c'est le grand principe selon lequel un pays qui respecte la liberté religieuse de ses concitoyens, c'est un pays qui a priori sera plus stable qu'un pays où la liberté religieuse n'est pas respectée. C'est souvent associé avec des valeurs démocratiques, d'état de droit. Donc pour eux, ça fait partie aussi de tout un effort plus général pour contribuer à une plus grande stabilité dans le monde. Et un pays notamment qui est plus stable, ça serait un pays qui est moins susceptible de servir de terreau au terrorisme, un terrorisme qui serait susceptible éventuellement de viser les États-Unis.